Alors, avant de laisser les enfants descendre en bas, je vous invite à vous lever avec moi. On va prier le Seigneur et prier pour nos enfants, prier aussi pour les offrandes qui sont données discrètement derrière, mais qui sont une expression de notre adoration. Prions, Seigneur. Bon Père Céleste, c'est pour toi que nous sommes ici, ô notre Créateur, toi qui nous as tant aimés, qui a envoyé son Fils unique parmi nous pour nous racheter de notre situation. On est reconnaissant et c'est pourquoi on se réunit ensemble, croyants, qui avons Christ en commun, voulant t'adorer, Seigneur, te mettre en priorité dans nos vies, s'encourager les uns les autres ensemble. Bénis, Seigneur, ces offrandes qui sont données pour toi. Seigneur, bénis ces enfants qui nous sont confiés, à qui nous voulons transmettre l'amour de Jésus-Christ, transmettre la foi dans le Créateur de l'univers et que leur vie puisse être consacrée à lui. Seigneur, bénis ceux qui prennent du temps pour préparer ces enseignements qui vont les accompagner dans la prochaine heure et que nos enfants puissent vraiment profiter et apprendre des richesses de la parole de Dieu. Nous te prions pour eux ainsi que pour ceux qui, dans cette salle ou à l'extérieur de cette salle, assistent en présence ou en différé ou à la maison, Seigneur, qui peut-être présentement ont le cœur lourd. On te prie, Seigneur, de rencontrer leurs besoins ce matin, de les encourager, que cette âme qui est affligée, que cette âme qui est découragée, qui est prise d'angoisse ou qui est prise de deuil, Seigneur, que tu puisses le rencontrer, la rencontrer ce matin, que ta parole puisse nous percuter, Seigneur, et avoir un impact en nous. Nous espérons en toi, nous nous attendons à toi et nous le demandons dans le nom de Jésus. Ensemble, amen. Ainsi soit-il, on va inviter les enfants à descendre, à aller rejoindre leur classe. Et entre-temps, bien, pendant que vous attendez que les enfants descendent, vous pouvez sortir vos cellulaires pour aller sur votre Bible, ceux qui prennent les cellulaires, que vous pouvez aussi enlever le son. Hein? Des fois, il y en a qui se font prendre par la prédication. Je veux pas être obligé de vous gêner là parce que vous avez reçu un appel, parce que vous êtes tellement important là, que dimanche matin, vous avez encore des appels. Alors, fermez vos cellulaires. Comme moi, en arrivant, là, c'est mon habitude. Je prends mon cellulaire, je baisse le son, puis pour être sûr de pas avoir de surprises et de distractions pendant la prédication. Petite précision aussi, une petite correction qui a été faite cette semaine, c'est pas la faute de Christiane. Les baptêmes ont été, il y a eu des appels qui sont faits, ça va être le 18 finalement, une semaine précédente. C'était pour accommoder certaines personnes pour leur famille. Alors, les baptêmes vont être le 18 juin. Donc, à la fête des Pères, c'est spécial, à la fête des Pères, nous allons célébrer au moins pour l'instant 3 baptêmes qui sont en prévision pour cette date. Et donc, le 18 est à noter dans votre calendrier. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça, des films qui finissent mal? Non? Je sais pas pour vous, mais moi, quand un film finit mal, je finis irrité. Je suis un peu marabout même un peu après. J'aime pas ça que ça finisse mal. Vous me direz, t'es trop attaché à Walt Disney. Peu importe, il devait y avoir quelque chose de biblique dans Walt Disney au niveau de la fin des choses, que malgré et envers tout, les mauvaises fins d'histoire, il y a de l'espoir. Je le crois fermement. Et quand je regarde un film qui finit mal, qu'il n'y a pas de suite, qu'il n'y a pas de rayon de lumière possible, que tout est, que le mal l'emporte, je me dis, c'est pas biblique, ça. Dans le fond, moi, c'est ce que ça dit. Évidemment, le film se veut pas une prise de décision sur l'ensemble de la vie. Ça reflète des réalités bien réelles, qu'il y a des histoires qui finissent mal, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais quand il n'y a pas de rayon de lumière, de possibilité, de justice, d'espoir dans la noirceur, ça a un impact sur nous. On a besoin, et la parole de Dieu nous donne cela, Dieu, notre Créateur, nous donne cela, toujours une lueur d'espoir, même dans les apparents désespoirs qu'on a. Et quand on a fini la semaine dernière, d'une certaine façon, si on faisait juste terminer la lecture brûle pour point du livre des juges, ça finit mal. Ça finit extrêmement mal. Des histoires, pas d'allure, des gens qui prennent des décisions, pas d'allure, une situation honteuse pour Israël, que même dans le livre de Osée, il va rappeler cette histoire. Il va pas dire l'histoire, mais il va se rappeler l'histoire de Gibéa. Histoire honteuse pour la nation. De comment un peuple peut aller aussi creux, aussi loin, que se comporter comme Sodome et Gomorre, que Dieu a enlevé du territoire d'Israël, de la Palestine, et a donné à Israël, et ils font pas mieux. Et donc, on pourrait terminer avec un certain cynisme. Mais, Dans les plus anciennes traditions israélites, on croit que le livre de Ruth était collé avec le livre de Juges, puisque le livre de Ruth est le complément de l'histoire. Elle nous donne, à la fin de cette histoire-là, dans ce chaos total, qu'il y a de l'espoir, il y a encore des croyants, il y a encore des visites de Dieu dans le livre de Ruth. Il y a encore des histoires de gens qui obéissent à la loi de Dieu et qui font une différence dans leur entourage. Il y a encore des gens qui ont un témoignage, malgré leurs hauts et leurs bas, leurs échecs, qui reviennent à Dieu. Il y a encore des gens, des nations, malgré le mauvais témoignage d'Israël, qui se convertissent, parce que la conversion ne vient pas avant tout d'un peuple qui rayonne pour Dieu. La conversion est un miracle. Elle vient avant tout d'un Dieu gracieux qui continue à attirer, envers et malgré tout, un Dieu gracieux qui continue à attirer les gens vers lui et à répondre à leurs besoins, malgré les hauts et les bas humains, et que les témoignages de lumière du peuple de Dieu ne sont pas toujours constants. Amen. Dieu fait son œuvre malgré tout. Ce n'est pas un encouragement pour ne pas se forcer. Ce n'est pas un encouragement pour juste se consoler quand on vit une vie médiocre chrétienne. C'est une bride de réalité qu'on ne doit jamais oublier, que Dieu est souverainement au contrôle, que la conversion est un miracle et que c'est seulement Dieu qui peut faire ça. Et ça ne repose pas sur nos épaules. Mais Dieu, oui, l'autre côté de la médaille, veut nous y faire participer. Dieu prend plaisir à nous utiliser. Dieu prend plaisir à prendre un de ses enfants, une de ses filles et de le placer dans une situation pour briller pour lui. Il en est fier. C'est son gros fun. Mais il ne dépend pas de nous. Vous comprenez la différence? Il prend plaisir de nous utiliser, mais il ne dépend pas de nous pour faire son œuvre. Et quel réconfort pour nous! Quel poids d'enlever sur nos épaules! Mais quel encouragement positivement à vouloir plaire à notre Père avec tout ce qu'il a fait pour nous. L'histoire de Ruth nous donne un espoir dans l'apparent désespoir que nous laisse à la fin le livre des Juges dans le chaos. Il y a une Ruth. Il y a une Naomi. Il y a même, imaginez, un Boaz. Oui, pour toutes les femmes autour de vous qui sont découragées, je ne vois pas un homme pour moi. Il y a un Boaz à quelque part. Il existe. Des hommes fidèles comme Boaz qui honorent Dieu, qui traitent avec respect une femme, qui mettent en pratique la parole pour relever le nom d'un homme dont le nom pourrait être oublié, qui prend soin de la famille élargie, qui est prêt à faire des sacrifices, qui est généreux. Un homme qui bénit les gens quand il les rencontre. Oui, Boaz, une belle image de Christ et qu'on va explorer dans ce livre. En guise d'introduction, je vous présente, à toutes les semaines, on va faire 4 semaines dans le livre de Ruth. Je vais vous introduire un peu le livre et l'importance de ce livre par bride. Au lieu de faire juste une grosse introduction, on va l'introduire un petit peu à chaque fois, découvrir des nouvelles vérités initiales qui vont nous aider à apprécier le livre de Ruth. Donc, on a regardé de transmettre la foi dans une génération chaotique. Quel défi dans Juges? Cette prédication que vous pourrez regarder en arrière, qui résume un peu la moitié du message du livre, mais qui donnait l'essentiel de ce qu'on devait apprendre sur les livres. Et là, maintenant, Ruth, garder espoir dans un monde chaotique. L'espoir contre toute attente. Oui, il y a encore de l'espoir contre toute attente humaine. Ruth, évidemment, c'est un livre qui fait suite au livre des Juges dans notre Bible chrétienne, qui suit le modèle, dans le fond, de l'ordre des livres qu'on a depuis 2000 ans avec les Grecs et la traduction aussi latine. On a en 4 parties l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Où on a les livres de la loi, les livres historiques, les livres poétiques et les prophètes. Mais pour les Juifs, c'est très différent. Dans la Bible juive, il y a 3 portions. Il y a la loi, mais ensuite, il y a les prophètes, et là, les prophètes incluent les livres de l'histoire qui parlent des prophètes et les prophètes. Et il y a les écrits, donc un peu un fourre-tout des autres écrits, poétiques, etc., proverbes, et livres autres, par exemple, à l'époque, comme Daniel, qui va être mis dans les livres autres parce qu'il est écrit à moitié en araméen, à moitié en hébreu, et donc orienté vers le message, vers les nations en partie aussi, tout comme Esdras, Néhémie, tout comme aussi, on retrouve l'exemple des chroniques qui se retrouvent dans ces écrits-là. Ils font une distinction. Évidemment, ça reflète différentes vérités, mais une chose qui est intéressante, c'est que dans la Bible hébraïque, le livre de Ruth ne se trouve pas du tout à la même endroit. Il se trouve dans les écrits, Et il est tout de suite après avoir lu le livre des Proverbes. Et logiquement, si vous avez lu le livre des Proverbes, vous savez qu'à la toute fin, au chapitre 31, on parle de la femme vertueuse, n'est-ce pas? 31 termine avec la femme vertueuse. C'est intéressant, les Juifs, dans tout l'Ancien Testament, il y a juste une femme qui reçoit le titre de femme vaillante, de femme vertueuse. C'est Ruth, la Moabite. C'est même pas une Juive. Et cette femme-là, son histoire se retrouve dans la Bible hébraïque, encore aujourd'hui, derrière le livre des Proverbes. Donc, tu lis le livre des Proverbes, boum, t'arrives tout de suite sur Ruth. Et fait intéressant, dans la Bible hébraïque encore, le livre qui va suivre le livre de Ruth, c'est intéressant, c'était choisi aussi avec attention. C'est le livre de Cantiques des Cantiques, qui au lieu d'être dans les livres poétiques, se retrouve après Ruth. Pourquoi? Parce que c'est une belle illustration de cette belle relation d'un homme et une femme qui se courtisent, n'est-ce pas? Avec pureté, Boaz et Ruth qui se courtisent et qui le font dans le respect des Écritures, en voulant même pratiquer la rédemption. On va l'expliquer plus tard, c'est quoi ça, la rédemption biblique? D'où vient cette idée-là que Jésus est rédempteur? On va l'expliquer plus tard, pas aujourd'hui. Mais c'est intéressant la manière dont les Juifs l'ont construit très différemment que nous, au niveau de l'ordre. Mais dans le plus lointain antiquité qu'on connaisse sur les Écritures, on croit que possiblement le livre de Ruth était un seul auteur, un seul livre avec le livre des Juges. Et ça ferait du sens puisqu'on terminerait avec une lueur d'espoir au milieu de toute cette période difficile. Le temps des Juges, évidemment, est très négatif. Et à quelque part au milieu, vers le 12e siècle avant Jésus-Christ, possiblement aux alentours environ, quand on suit les indices du texte et des Juges, possiblement aux alentours du moment où ce que Gédéon était juge en Israël, que s'est passée cette histoire. Gédéon était plus au nord, évidemment, 50, 70 kilomètres plus au nord, dans la partie où ce qui l'influençait plus. Évidemment, Ruth et l'histoire de Naomi se passent au sud de Jérusalem, à Bethléem. Et quand on a vu Bethléem pour la dernière fois, c'était très négatif, vous vous rappellerez? Bethléem, à la fin du livre des Juges, est un peu traînée comme ville dans la boue. C'est la ville où il y a une histoire avec un Lévite qui va chercher sa femme-là, qui l'avait trompée, puis il la ramène. Il y a l'histoire aussi d'un des petits descendants de Moïse qui se retrouve être un Lévite, finalement, idolâtre, et qui vient, entre autres, de Bethléem. Bethléem paraît pas bien dans les derniers chapitres. Et là, tout à coup, il y a cette histoire qui va se passer de Naomi de Bethléem qui s'en va à Moab et qui revient. On va le lire ensemble, mais avant, c'est vrai, avant de le lire, je veux juste vous présenter ceci, aussi un autre élément d'introduction. Si vous connaissez au moindrement un peu votre Bible, vous avez lu le livre de Matthieu, vous rappellerez que dans Matthieu, il y a une généalogie que souvent les gens passent par-dessus rapidement, au tout début de Matthieu, pour nous montrer, évidemment, l'ancestrage, les ancêtres des parents de Jésus, pour montrer qu'il descend de David. Et dans cette généalogie-là, qui normalement se couvre seulement d'hommes, les femmes sont complètement mises à côté de tout ça. Ce n'est pas un reflet ici de la volonté de Dieu, c'est la volonté des hommes de le faire ainsi. Et tous les hommes sont nommés dans son ancestrage, quelques-uns sont sautés par-dessus. C'est organisé d'une manière un peu arbitraire, 14, 14, 14. Fait qu'il y a des noms qui manquent certainement. Mais au milieu de tout ça, chose étrange, quatre femmes sont soulignées dans la généalogie de Jésus. Si vous avez lu les Écritures, vous savez de quoi je parle ici. Mais le choix des quatre femmes est vraiment intéressant. Ruth se retrouve parmi elles. Mais remarquez le choix des femmes. La première, c'est Tamar, une Cananéenne que fait accroire d'être une prostituée pour faire tomber Judas pour coucher avec elle et qui finalement va avoir des jumeaux. Tu sais, si on avait à choisir, peut-être on ne la mettrait pas dans notre généalogie, cette histoire-là. C'est la généalogie du Messie, les amis. Tu vas-tu raconter dans l'histoire du Messie l'histoire d'une femme qui a joué la prostituée puis qui a eu des jumeaux de ça? Puis le gars, il était pas mieux. Il voulait la faire brûler. En tout cas, c'est une histoire, là. Il avait passé sa carte de crédit, puis là, finalement, il a monté sa carte de crédit au dernier moment, puis il dit non, c'est vraiment toi là, qui as signé puis qui as payé. Ça va faire, là. En tout cas, c'est une histoire. Vous pourrez aller voir chapitre 38 de Genèse dans les enseignements dessus le site. C'est gênant. Mais là, c'était juste une histoire gênante, on se dirait, c'est pas pire. Ben non. Rahab, une autre prostituée. Voyons, c'est quoi qu'on a dans la généalogie de Jésus? On accumule les prostituées. Une prostituée païenne en plus, tout comme elle, là, cananéenne, qui se ramasse dans la généalogie de Jésus. Ben oui, ça se trouve être la mère de Boaz. Vous savez pas ça, hein? Un peu gênant. Est-ce que ça a influencé Boaz pour avoir une ouverture envers quelqu'un qui peut-être qui vient des nations, mais qui a la foi qui fait exception? Ça fait réfléchir, en tout cas. Ruth, une Moabite. Le peuple d'à côté qui sont sortis de Lot, de ses deux filles qui ont couché avec le père pour garder une descendance, Moab puis Ammon. C'est chic comme histoire. Un peuple qui descend d'inceste. Et il y avait des règles dans l'Ancien Testament pour pas leur permettre, puis c'était des ennemis. Puis si vous rappelez bien même, il y a une histoire dans Nombre, chapitre 25, où c'est des femmes moabites qui ont séduit, avec le roi moabite, qui ont séduit les Juifs. Et il y a 24 000 morts qui sont sortis de là. C'était pas des amis, là, Moab, c'était des ennemis. Même si c'était des cousins de la fesse gauche, très loin, là. Et Bathsheba, peut-être elle, c'est une juive, on ne le sait pas, elle était mariée avec un Hittite. Puis on sait une chose, c'est qu'elle est adultère, puis que leur adultère, elle, puis David, ben ça a amené la mort d'un homme, puis que d'autres personnes, puis ça a amené plein de problèmes dans la famille, puis la mort dans la famille. Mais l'histoire d'une femme adultère se retrouve aussi dans la généalogie. Tu dis, y a-tu quelqu'un qui cherche des poux dans la généalogie de Jésus? Il sort toutes les pires histoires de la généalogie de Jésus d'une frappe, puis pour les traîner dans le bout, il met des femmes en plus. On n'aurait pas pu raconter des histoires de certains hommes, là, que... C'était pas trop chic leur affaire. Mais avec chacune de ces femmes-là, il y a un homme. Si on prenait le temps de regarder l'histoire de chacun des hommes qui sont dans la généalogie de Jésus, ben, tu sais, Judas, le conjoint de Tamar, il est là. C'est pas chic. Et ainsi de suite. Mais ce que ça nous dit, par contre, c'est que ça nous dit une vérité vraiment importante. Même le Messie n'a pas décidé, dans ce monde déchu, d'avoir une lignée parfaite, d'avoir la lignée idéale. Le Messie, comme chacun de nous, a accepté de rentrer dans ce monde, dans une famille bien imparfaite, avec bien des histoires honteuses. Parce qu'il est venu comme frère parmi nous pour nous racheter de notre situation honteuse et dont sa propre famille avait besoin de lui. Jésus patauge dans ce monde de misère parmi des familles normales et aime, et notez bien, il aime reprendre des histoires pas d'allure, et d'en faire quelque chose de beau. Jésus, Dieu Tout-Puissant, le Père Céleste, prend plaisir à ça. Et l'histoire de Ruth nous rappelle, et la généalogie de Jésus nous le rappelle. Maintenant, on entre dans l'histoire, OK? Je vous lis quelques versets. C'est temps de sortir vos cellulaires, ceux qui lisent la Bible dans votre, sur votre cellulaire. Moi, j'ai les deux ce matin. Et on va lire ensemble quelques versets, OK? Alors, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour aller séjourner dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Malchlon et Kiljon. Je sais, vous dites toutes, ils ne devaient pas aimer leurs fils pour les appeler comme ça, mais c'est comme ça. Et leur nom s'appelle littéralement en hébreu « faible puis malade ». Fouillez-moi pourquoi, là. Est-ce qu'ils avaient des fragilités à la naissance? Je le sais pas, mais en hébreu, leur nom veut dire faible puis malade. T'sais, c'est pas super glorieux comme nom. Alors, ils sont morts jeunes. Alors, est-ce qu'il y avait une fragilité de santé? Puis c'est ce que ces noms voulaient communiquer. C'est tout à fait possible. Mais la plupart des gens n'appelleront pas leur fils faible et malade. Ça risque de pas passer à l'état civil. Élimélec, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. J'ai oublié de mentionner, excusez-moi, au milieu du verset 2. Ils étaient Éphraïtiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec et mari de Naomi mourut et elle resta avec ses deux fils, donc, dans le pays. Ils prirent des femmes moabites, donc ces hommes juifs ailleurs, ont désobéi ici à la loi en mariant des femmes autres que du peuple juif, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Père Céleste, bénis la lecture de ta parole. Instruis-nous, Seigneur, ce matin. Conduis-moi par ton esprit et que nos cœurs soient tous et chacun réceptif à toi ce matin. Parle-nous, s'il vous plaît. Nous te le demandons par le nom de Jésus. Amen. Ruth prend une décision de foi et s'engage envers Naomi. C'est l'orientation de notre chapitre ce matin. Et ce qu'on regarde présentement, c'est les 5 premiers versets qui sont une sorte d'introduction à l'histoire, qui nous donnent les grandes lignes avant de s'aventurer dans les détails. Et ce qu'on apprend rapidement, c'est qu'il y a une famine. Et c'est pas surprenant parce que la loi de l'Ancien Testament nous disait, lorsque le peuple s'éloignait de Dieu, que Dieu allait punir le peuple par la famine, entre autres. C'était un des moyens que Dieu punissait, lançait un signal au peuple, « Hey, si la famine, la loi le dit, c'est parce que vous ne suivez pas, puis là, c'est un jugement sur vous. Revenez à moi. » La famine était une punition, mais une invitation à revenir à Dieu. Et donc, on est dans le temps des juges, c'est clairement identifié. On sait que le temps des juges, il y avait beaucoup de hauts et de bas, il y avait des cycles. Et donc, c'est pas surprenant que dans ces moments-là, il y a eu des périodes de des rois qui venaient les oppresser. Il y a eu des moments aussi de famine. Et là, il y a une famine qui les frappe, symbole ici du jugement de Dieu. Et on va comprendre un peu plus loin pourquoi. Deuxièmement, on apprend que cette famille est composée de 4 personnes, un père dont le nom Élimélec veut dire « mon Dieu est roi ». Mais « mon Dieu est roi » décide d'aller dans un autre pays. « Mon Dieu est roi » vit à Bethléem, là, la maison du pain. C'est ça que ça veut dire « Bethléem ». Puis la maison du pain est en famine, fait qu'il va dans le pays voisin. Il y a beaucoup d'ironie ici dans le choix et dans toute l'histoire pour montrer que celui qui a son Dieu est roi, puis qui vit dans la maison du pain, bien, il se ramasse dans un autre pays. Au lieu de rester là où il devait être comme juif, de vivre la punition, d'accepter, de faire confiance à Dieu, il va vers le pays d'à côté. Et c'est pas le premier, évidemment, on se rappellera l'histoire de Abraham, n'est-ce pas? Abraham, quand il y a eu une famine dans le pays, il a pas consulté Dieu, il a tout de suite été en Égypte, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, évidemment, avec sa femme, ils ont fait un mauvais choix, ils ont fait du compromis, ils ont fait du mensonge, etc. Famine, famille, faillite. Bien, on comprend ici que leur choix ne semble pas honorer Dieu. Ils s'en vont chez le voisin qui est ennemi. Ils ne font pas confiance à Dieu pour leur nourriture, ils s'en vont ailleurs. Ils sont en train de s'éloigner. Leur fils épouse des filles du coin, c'était contre la parole de Dieu. Il y a une faillite morale et spirituelle clairement dans sa famille. Et donc, ça va pas bien. On voit qu'il y a une décadence. Et finalement, tout ça va finir par des funérailles. 3 funérailles. Et sans explication, et ça semble pas aussi important pour nous de savoir pourquoi, comment, que le fait que cette femme-là se ramasse veuve, mais veuve, pas à peu près. Et pour vous qui avez déjà vécu le deuil d'un époux, d'une épouse, vous savez déjà comment ça laisse un trou, un vide. Pour ceux qui ont vécu la perte d'un enfant, alors que ça devrait être le contraire, comme jeune adulte, et savez la douleur que c'est de perdre un enfant, là, imaginez les 2 seuls fils, puis ton époux, et tu te ramasses tout seul avec tes brus. Il y avait là un grand deuil, de grands funérailles, une grande perte, une grande souffrance dans cette famille. Et malgré les observations spirituelles qu'on peut faire ici sur l'aspect qu'elle semble s'avoir éloignée du peuple de Dieu, ça semble être un mauvais choix, etc., l'auteur ne fait pas un jugement là-dessus, sur la faillite spirituelle, mais simplement nous donner ici comment Ruth se ramasse dans cette histoire. Il nous donne le contexte de comment Ruth se ramasse dans cette famille. Et c'est de là qu'on va commencer à avancer avec juste Ruth et Naomi et que le reste va prendre le bord. Sans faire de jugement sur l'état spirituel, sans faire de jugement sur ce va-et-vient qui se passe, l'auteur nous amène à comprendre tout simplement d'où vient Ruth. C'est intéressant, cette femme Naomi, cette femme dont le nom veut dire « gracieuse », qui finalement va devenir, dans les prochains versets, par cette grande souffrance, elle va devenir amère. On va lire les prochains versets ensemble. Et voici ce qu'on a dans les prochains versets jusqu'à la fin du chapitre. Et je vous lis cela. Puis, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab, et là, soulignez ça ici, que l'Éternel avait visité son peuple. Ah, intéressant. Soulignez ça. et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux filles, ses deux belles-filles. Elle se mit en route pour retourner au pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, que chacun retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté, donc use d'amour bienveillant envers eux. » C'est un mot très, très fort. En hébreu, c'est le mot le plus riche, le plus fort pour parler de bonté envers quelqu'un, envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Et donc, elle reconnaît en ces deux belles-filles, deux bonnes belles-filles qui avaient vraiment aimé ses fils et qu'il avait vraiment respecté comme belle-mère et qu'elle avait une belle relation avec eux autres de proximité. Que l'Éternel fasse trouver à chacun du repos ou un lieu de repos dans la maison d'un mari. Et elle les embrassa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent, « Non, non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Non, retournez mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? » Non. « Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils aient grandi, refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. » À cause de vous, probablement en les voyant, de voir ces deux brus qui sont comme elles, sans époux, qui ont aimé son fils, ça tournait le couteau dans la plaie, dans une grande affliction, une grande amertume de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Je m'arrête ici un petit instant. Alors, juste pour vous situer, Bethléem, juste un petit peu en dessous, hein, un 5 à, tout dépendant où tu es en ville à Jérusalem aujourd'hui, là, de 5 à 10 kilomètres pour se rendre à Bethléem, qui est tout en dessous. Et donc, elle fait le périple pour traverser l'autre côté, traverser la section qui serait d'Israël et Ruben pour descendre jusqu'à Moab. Donc, un bon périple qui, même en auto aujourd'hui, là, ça prend un bon 2 heures faire ce périple en auto, sans évidemment compter le fait de traverser la frontière. Et donc, c'est le périple que ces femmes ont fait, pour vous donner une idée. Première chose à noter ici, c'est la visite de l'Éternel. C'est intéressant, la première fois que ce verbe-là est apparu dans l'Ancien Testament, c'est une histoire que vous connaissez bien. C'est quand une femme ne pouvait pas avoir d'enfant et que dans son âge avancé, on dit que l'Éternel l'a visitée. Vous vous rappelez cette histoire-là? Sarah. Quand Dieu visite, c'est une expression, évidemment. En fait, on l'utilise le même terme, par exemple, un homme, un général qui s'en va vérifier son armée, hein, il s'en va compter le nombre puis inspecter, c'est la même chose, il fait une visite. C'est le même verbe qui est utilisé là pour les deux cas. Ça peut être une visite de quelqu'un, tout simplement, mais appliqué à l'Éternel, à chaque fois qu'on le voit dans l'Ancien Testament, c'est une expression de la grâce de Dieu qui revient vers son peuple après un égarement de son peuple dans la rébellion. Et là, Dieu revient les voir. Et là, tout à coup, bien, il avait la famine. On comprend ici que par la visite de Dieu, le pain était revenu. Donc, la famine était partie. Que Dieu était revenu prendre soin de son peuple. On comprend qu'il y a eu donc un réveil à quelque part, sous un des juges, n'est-ce pas? On est dans le temps des juges. Il y a eu une repentance, Dieu est intervenu. Et là, il y a un juge dans le peuple. Et là, Dieu a recommencé à bénir le peuple, qui ont recommencé à le suivre. C'est ce qu'on comprend de ce contexte d'une visite de l'Éternel. Mais remarquez bien ceci. Ruth ne se lève pas et ne revient pas avant ça. Toute l'initiative ici pour favoriser son retour, c'est une grâce de Dieu. Même nos propres retours à Dieu sont l'expression de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui permet chez nous des réveils, des prises de conscience. Des fois, elles ne sont pas toutes faites, nos prises de conscience, mais juste assez pour qu'on revienne de notre égarement. Juste assez pour qu'on reconnaisse et qu'on commence des démarches. Même nos retours, aussi simples que cela, sont quand même précédés d'une visite de Dieu, d'une grâce de Dieu. Ce n'est pas l'effort humain ici qui est l'enjeu du retour à Dieu. Vous comprenez? Ça a commencé avec une visite de Dieu. Deuxième chose à remarquer, le mot « revenir ». Quand on revient d'une ville ou qu'on revient à une ville, c'est le même mot pour revenir à Dieu. Le mot qu'on traduit dans l'Ancien Testament et que, entre autres, le livre de le prophète Jérémie utilise le plus dans l'Ancien Testament, « Chouv, revenez, revenez à l'Éternel, revenez à l'Éternel », bien, elle est revenue à Bethléem. Et le choix de mots n'est pas juste l'idée d'un retour géographique, mais il lance aussi un signal pour celui qui lit cette histoire-là d'un retour à l'Éternel, d'un retour vers Dieu, d'un retour de l'endroit que tu n'aurais dû pas laisser derrière, qui était un égarement du lieu béni que Dieu avait pour toi, qui pour l'instant était un lieu d'épreuve, mais bien mérité, sous la souveraineté de Dieu. Et là, tu t'es éloigné de là et elle revient. Et ça arrive 12 fois dans ce chapitre, seulement 2 fois dans le reste du livre. Et donc, l'auteur est en train de nous lancer un signal ici que son retour, ce n'est pas juste un retour géographique, c'est aussi un retour de cœur, un retour d'un cœur d'un enfant qui s'est éloigné de la terre promise que Dieu lui avait donnée. Parce que quand c'est devenu difficile, j'ai regardé le gazon du voisin ailleurs, qui avait l'air plus intéressant. Et là, ici, ce n'est pas un sujet de condamnation pour tous les snowbirds qui s'en vont chercher ici, là, du soleil dans le sud. Je ne veux pas vous faire sentir mal en disant ça, là. Hein? Tous ceux qui sont bronzés, là, je ne veux pas vous pointer du doigt, là. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle, évidemment. Hein? Je suis un peu jaloux de votre bronzage puis tout ça. Vous avez vu, hein, Tony puis Nathalie, hein, il est arrivé en avant, là, il est pas rouge même naturellement, là, il a pris du rouge puis du brun, de la couleur, là. Puis là, c'est parce qu'il arrive du sud de la France. Il est en vacances et ils avaient un voyage explorateur aussi pour un ministère et ils arrivent de là. Et donc, c'est pas de ce genre de retour-là qu'on parle. On parle vraiment de déménager, de s'installer ailleurs, ailleurs ou de ce que Dieu me voulait. Du lieu que je sais que Dieu m'a choisi. Et que là, finalement, pour la logique humaine, plutôt de rester par la foi dans l'épreuve que Dieu me permet, je fuis ailleurs. Et qu'est-ce qui arrive? Je fuis Dieu. Je fuis de l'obéir. Et les choix qui s'en suivent en découlent tous. Et là, elle revient. Donc, notez bien ici, l'idée d'un retour, c'est l'idée d'une repentance, de revenir auprès de Dieu alors qu'il y a eu un égarement. L'aspiration de Naomi, un lieu de repos. Elle aspire un lieu de repos pour elle, un lieu de repos pour ses belles-filles. Et le lieu de repos est associé à quoi ici? Vous avez remarqué? Les femmes, vous avez remarqué à quoi il est associé ici, le lieu de repos? Dans la maison d'un mari. Pas convaincu, c'est toujours un repos d'être avec un mari. Je peux pas dire exactement qu'on y repose, hein, Tony? On n'est pas toujours reposant. Il y en a qui ont des maris reposants? Non, levez pas les mains, là, on veut pas. C'est une question de même, là. Un lieu de repos. Je sais pas quoi dire, je vous avoue, là-dessus, là. Je reste. Ça m'accrochait en lisant ça. Je disais un lieu de repos. Pas sûr, mais c'est. Ça y est. Pas toujours un lieu de repos, hein? Des fois, on dit, c'est plus un lieu de chicane, des fois. Un lieu de travail de l'Esprit Saint sur mon caractère. Oh, là, je commence à avoir des têtes qui font, oh, je peux m'identifier avec ça. Là, ouais. L'idée, évidemment, pour les Juifs, c'était que pour une femme, évidemment, d'être dans un foyer avec un mari qui l'aime, on conçoit ici que c'est pas juste marié pour être marié, mais d'un mari qui va être honorable, devient un lieu de repos. Et c'est ce qu'elle aspirait pour ses filles, puisqu'elle avait perdu d'avoir un époux. Et ça se voulait un travail d'équipe, évidemment. Mais force est de constater que ce n'est pas toujours un lieu de repos, effectivement. Et que là, elle, comme belle-mère, ne pouvait pas leur offrir souvent, dans la loi juive, évidemment, si une femme était en deuil d'un époux, ben peut-être un membre de la famille, un frère, allait honorer la semence et de pouvoir avoir un fils dont le premier nom relèverait le nom du fils qui est mort. Fait qu'un des frères marie la belle-sœur pour que le premier porte le nom, puis serait comme attribué à son frère, puis après ça, les autres seraient les siens. Et une manière de garder le nom de chaque membre de la famille, montrant aussi que pour Dieu, chaque nom est important. Mais force est de constater que ce n'est pas ce qu'ils ont trouvé finalement dans le mariage, dans ce mariage sur terre. Ce n'est pas toujours un lieu de repos. Mais ça peut le devenir, parce qu'on regarde dans le livre qu'on va lire. Et effectivement, ce mariage deviendra un lieu de repos, même s'il n'est pas toujours le cas, le mariage. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je m'y attarderai pas trop. Mais je fais cette remarque. Et ce que je remarque, c'est l'évaluation de Naomi. Elle voit que Dieu, la main de Dieu est sur elle, mais pas dans le sens positif. On voit des auteurs comme Esdras dans l'Ancien Testament, la main de Dieu est avec nous. Ah, c'est positif, là. Elle nous protégeait, elle nous accompagnait. Là, la main de Dieu est contre moi. Et elle va dire deux fois, l'Éternel était contre moi, la main de Dieu était contre moi. Elle sent le poids de la conséquence du jugement de Dieu. À tort ou à raison, elle sent le poids du jugement de Dieu. Et elle attribue à Dieu ici ce qui arrive dans sa vie. Et ça apporte chez elle, évidemment, des grandes souffrances. À tel point qu'elle n'invite même pas ses belles-filles à venir. Elle dit, non, allez-vous-en, allez-vous-en. Restez pas avec moi, là. Et pourtant, d'une certaine façon, tu dis, je retourne à Jérusalem, peut-être que c'est une bonne place pour mes belles-filles, tu sais, d'être exposé au Dieu d'Israël. En même temps, c'est vrai qu'il y a comme quelque chose là-dedans, puis le ramener tes deux brus, puis ça te rappelle tes deux fils qui sont morts, puis là, se ramasser trois femmes endeuillées, ça va être dur s'aider, ils ont des meilleures chances chez eux. Et donc, elle les renvoie vers leur Dieu, au lieu vers leur famille, vers des hommes là-bas, que vers elle. Et c'est un constat qu'on fait, mais on dit ceci, elles élevèrent la voix et pleurèrent encore, mais Orpa embrassa sa mère, puis elle va partir. Mais Ruth s'attacha à elle. Et là, soulignez ce petit mot-là, s'attacha à elle. Et même sans lire l'hébreu, vous êtes capable de vous dire, ah, s'attacher, ça me dit quelque chose, ce mot s'attacher. Vous vous rappelez de ça? Hein? C'est l'homme qu'on dit dans Genèse 2, hein, qui est supposé s'attacher à sa femme. C'est le même verbe qui est utilisé ici. C'est intéressant, le langage utilisé de son engagement envers sa belle-mère. C'est une femme envers sa belle-mère. Dans cet engagement de loyauté, elle s'est attachée. L'idée d'attacher, c'est évidemment de se coller à quelqu'un comme dans un couple. On comprend ici que c'est pas le cas présent, mais de se coller à elle dans une loyauté, dans un engagement d'alliance. Tu peux compter sur moi, c'est une décision qui ne va pas avec les émotions. C'est une décision que je prends, bon temps, mauvais temps. Tu vas compter sur moi, je m'attache à toi. Elle s'est attachée à elle, mais non seulement à elle, mais elle décide, puis elle va le décrire, elle s'attache aussi au Dieu de sa belle-mère. Et c'est toute une décision duquel on est en train de lire ici. Une grande décision qui, pour une femme comme elle, à quelque part, elle va avoir toute une profondeur de relation avec Naomi. Ça devait être toute une bonne belle-mère. Et à quelque part, malgré cet éloignement-là, elle devait avoir un attachement à Dieu. Il devait avoir quelque chose qui faisait que cette femme inspirait le respect comme ça. Qu'une femme moabite décide de laisser sa famille et s'attacher à sa belle-mère alors qu'il n'y a pas vraiment d'espoir positif. De un, logiquement, c'est quoi les chances qu'un juif veuille te marier? Ils ne sont pas supposés te marier comme moabite. Fait que c'est quoi les chances? Naomi a perdu ses terrains et tout ça va revenir puis ça va avoir été pris par quelqu'un d'autre. Comment tu vas survivre avec ta belle-mère? Deux mendiantes? En quoi deux vont aider ta belle-mère que toi tu peux au moins t'y refaire ta vie? Logiquement, la bonne chose pour elle à faire là, en termes de logique humaine, c'était de retourner, n'est-ce pas? Et pourtant, il y a quelque chose dans sa relation avec Naomi qui fait qu'elle est prête à prendre un tel engagement. Et un engagement dont on lit la description immédiatement après. Alors, Naomi insiste encore, malgré qu'elle dit qu'elle s'attache à elle, elle la repousse encore. Et non, elle veut s'attacher. Et là, on voit la décision qu'a pris justement Naomi. Regardez avec moi dans ces quelques versets. Ruth répondit au verset 16, « Ne me presse pas, là. Arrête de me mettre de la pression pour partir. » Il faut qu'elle insiste de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu vas marcher, je vais marcher. Où tu vas habiter, je vais habiter. Ton peuple sera mon peuple, puis ton Dieu sera mon Dieu. Wow! Où tu mourras, je mourrai. Il n'y a pas de retour là, ici, là. Donc, son engagement, elle dit, elle s'est attachée, est aussi fort que son engagement qu'on est invité les Écritures à avoir dans le mariage. Wow! Ça transcende ici la dame qui est devant elle, la femme, ça va avec le Dieu. Et j'y serai enterré, je ne retournerai plus chez nous. Je te suis coûte que coûte jusqu'au bout. Ton lieu de sépulture va être mon lieu de sépulture également. quelle démonstration d'amour, de loyauté, de foi envers le Dieu de Naomi que de suivre sa belle-mère comme ça. Et si autre chose que la mort vient à me séparer de toi, et donc elle va le prononcer ici sur une sorte de jugement, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Mais vieux, c'est comme être intense dans son engagement. Naomi voyant donc qu'elle était décidée, l'idée ici du mot, c'est qu'elle était affermie dans sa décision, qu'elle était solide sur ses deux pattes, elle cessa d'insister auprès d'elle. Quelle expression de foi nous sommes ici invités à constater. C'est comme le point tournant ici dans le chapitre. Et j'oserais dire que c'est la conversion, le témoignage de conversion de Ruth qui semble indéniable ici. Pourquoi? Bien, le reste du livre va témoigner de la constance et du sérieux de son engagement. Si on avait juste ça, puis on ne sait pas le reste de sa vie, bon, ça aurait pu être momentané, mais on voit par le reste du livre que cet engagement était vraiment sérieux et qu'elle l'a tenu jusqu'au bout. Elle abandonne le dieu Chemosh, le dieu des Moabites. Elle abandonne ce territoire familial, sa famille. Toute la vie de Ruth va maintenant tourner autour de cette déclaration de foi envers sa belle-mère et envers son Dieu, le Dieu qu'elle décide d'honorer. Ainsi, tout cela commencera avec un engagement de foi. C'est là que commence la vie chrétienne. C'est là que commence le chemin de foi. Cette décision où ce qu'on décide qu'on ne va plus jamais retourner en arrière. Je retourne à Dieu une fois pour toutes. Il est intéressant de noter que Ruth est attachée à Naomi. C'est la description d'une décision qui semble avoir laissé une marque importante dans sa vie pour sa foi, malgré les mauvaises décisions familiales antécédentes. Naomi devrait inviter sa belle-fille à suivre l'Éternel avec elle, mais elle n'était pas là dans sa vie, elle était là en train de la repousser. Et malgré tout, ces obstacles-là, Ruth décide, non, laisse-moi te suivre, arrête de me repousser. Wow! Qu'est-ce que ça va donner? Bien, un retour mitigé à Jérusalem. Voici ce qu'on lit. Okay? Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue, fut en quelque sorte surprise. C'est ça qui faisait jaser en ville, finalement, le mot qui est là, émue, là, à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce Naomi? Alors, premièrement, il y a cet élément-là de retourner et ça fait jaser tout le monde. Puis les gens se posent même la question, en la voyant après tellement d'années, peut-être est-ce que tout ça l'avait fait vieillir, effectivement. Les deuils, les épreuves, le dur labeur, les voyages nous font vieillir. Est-ce que c'est vraiment Naomi, celle dont le nom veut dire la gracieuse? Et qu'est-ce qu'elle répond? Non, c'est pas Naomi. Elle dit, ne m'appelez pas Naomi, ma gracieuse. Appelez-moi Mara. Celle qui est remplie d'amertume. Car le Tout-Puissant, Shaddai, vous vous rappelez d'avoir chanté peut-être le chant El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Shaddai, le Tout-Puissant, m'a rempli d'amertume. Et là, on voit ici qu'elle a le cœur lourd, cette femme-là. Elle est remplie d'amertume. Et la raison pourquoi on écrit rempli, c'est pas parce que le mot rempli est là en réalité, c'est parce qu'on dit il m'a rendu amer, très, me haute, beaucoup. Et là, on le traduit rempli d'amertume. C'est un superlatif qui est mis là pour dire je suis vraiment amer. Et c'est le Tout-Puissant qui m'a rendu comme ça. Le Tout-Puissant m'a rendu très amer. C'est toute qu'une déclaration. Cette femme-là n'avait gros sur le cœur. J'étais dans l'abondance. OK. J'étais rempli, littéralement, à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Bon, c'est peut-être pas flatteur pour Ruth, là, à considérer les mains vides, là, mais elle avait une belle sœur, une belle fille. Et remarquez ici, là, les émotions de cette femme. Ils sont très forts. J'ai pris quelques notes que j'aimerais juste vous lire et signaler à ce niveau-là ici. Naomi, dans sa douleur, est emprisonnée. Et je ne dis pas condamnation, mais d'une manière très réaliste, elle est emprisonnée de son égoïsme, de son moi. Et à une évaluation extrêmement subjective des faits, amère contre Dieu. Elle est centrée sur elle, dans la souffrance typique à l'être humain. Ses sentiments de profonde souffrance la rendent réactionnaire et la rendent dépressive. Parce que le mot utilisé ici pour être rendu amer est utilisé pour parler de sentiments de dépression. Quand on parle des gens dans Lamentation qui sont remplis d'amertume, ils sont déprimés dans Lamentation. C'est un sentiment aussi qui est décrit pour parler d'irritation. Daniel, on dit qu'il était rempli d'amertume dans deux situations. Une situation en particulier, chapitre 8 de Daniel, ça parle d'irrité. Même quand on parle de Jésus dans Zacharie, chapitre 12, on va pleurer comme sur un fils unique. Vous vous rappelez de cette prophétie-là? Zacharie 12, 10. Ils l'ont percé, puis on va pleurer sur lui comme un fils unique. On va avoir de l'amertume. Et ça parle évidemment de deuil dans ce cas-ci. On parle de pleurs dans Ésaïe liés avec le mot amertume. On parle aussi dans Exode, dans Samuel, de colère que l'amertume va nous amener. Vous vous rappelez ces hommes que David dirigeait, puis ils ont été attaqués par des Amalécites qui sont partis avec leur famille, leurs enfants. Et là, les hommes étaient tellement dans l'amertume de leurs enfants, puis de leurs femmes qui ont été enlevées, sachant pas si sont vivants ou pas, qu'ils veulent tuer David. Vous vous rappelez de ça? On dit qu'ils étaient remplis d'amertume. Parce que l'amertume vous fait vivre toutes sortes de sentiments humains très forts et réactionnels. De l'isolement à la dépression aux pleurs jusqu'à la colère qui peut nous amener à vouloir tuer dans cette amertume de cœur. Des émotions très fortes. L'amertume peut nous faire détester ou même traiter avec dédain, repousser même ceux qui nous aiment. Et incapable de recevoir de l'amour des gens autour de nous parce qu'on est tellement pris d'amertume, de la souffrance qu'on vit. Ceux que Dieu voudrait utiliser pour nous faire du bien, on va même les repousser et les détester et être détestable dans ce sentiment d'amertume. Et vous savez, plusieurs l'ont vécu. Je souligne deux femmes qui l'ont vécu, entre autres. Juste après, quand vous êtes entré dans votre Bible, vous arrivez dans Samuel, on parle de Anne, n'est-ce pas? Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, était écœurée dans son couple. Il y en avait une qui l'agaçait tout le temps. Et dans ce désir-là, on dit qu'elle était remplie d'amertume. Puis là, elle est venue devant le Seigneur, vous rappelez? Puis là, Élie va la prendre, elle va vider son cœur devant le Seigneur, dans son amertume. Elle va pleurer devant le Seigneur. Et on dit, elle avait l'âme remplie d'amertume. Une autre femme aussi, je lisais cette semaine dans ma lecture personnelle. Vous vous rappelez cette femme de Sunem qui recevait Élie dans son foyer, et que là, Élie a dit, tu vas avoir un fils. Elle a eu ce fils-là, et finalement, il meurt, ce fils-là, et en route, elle s'en va voir le prophète pour lui dire, écoute, je te l'ai pas demandé, ce fils-là. Puis là, elle est remplie d'amertume. Puis là, Élie va dire, hey, le Seigneur m'avait même pas dit qu'elle était remplie d'amertume, avait l'âme remplie d'amertume. Pourquoi? Le deuil, la déception, la colère que ça n'a pas viré comme je m'attendais. On vit tout ça un jour ou l'autre, n'est-ce pas? Deux femmes que je viens de décrire, je vous décris un homme aussi. Job. Quatre fois, Job va parler d'amertume de l'âme. Et donc, il est en train de parler d'amertume, là, que mon immatériel à l'intérieur de moi, mon âme en souffre. Et ça affecte tout mon corporel. Mais il y a une amertume dans l'âme, dans ce qui me donne la vie. Et il dit, pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre? Et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme. Il est en train de dire, je veux mourir. Tu ne peux pas me laisser tout mourir en paix. Je suis écœuré. J'en ai assez. La vie, c'est de là. Je sais, vous ne l'avez jamais sûrement dit, mais je ne vais pas choquer personne. Vous avez passé par là? Vous auriez voulu mourir? devant les souffrances qui vous sont permis de vivre, tellement que l'amertume dans l'âme est profonde, est souffrante, intolérable, que vous pensez que la mort serait un soulagement et qu'on vous en voulait même à Dieu de vous laisser en vie. Job a passé par là et Job a osé le dire à Dieu. Job a osé verbaliser ce que souvent on est gêné de dire lorsqu'on passe un moment creux. D'avoir une amertume si bas que j'aimerais mieux mourir et d'en vouloir à Dieu de me permettre de voir encore le soleil ce matin. Comment sortir de là? Il va dire, Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Oh, OK. Là, il transite, là. C'est plus la même chose, vous suivez? Là, il y a de l'espoir. Le Dieu qui me permet ça, il est vivant. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer. C'est peut-être pas fini, l'histoire avec Dieu. Peut-être c'est ça que tu as besoin d'entendre ce matin. Peut-être tu es dans le sentiment de Job, là. Puis tu vas te rappeler, non. Shaddai, le Tout-Puissant, parce qu'évidemment, le mot Shaddai est utilisé 48 fois dans l'Ancien Testament, mais qui l'utilise le plus? 31 fois, c'est Job qui utilise ce mot-là particulièrement. Est-ce qu'il y a un lien ici pour l'âme dans la souffrance à se tourner vers le Tout-Puissant, vers Shaddai, pour avoir de l'espérance? Mais il se tourne ici et on sent que c'est pas fini. Ce Dieu-là, vers qui il est vivant, il va encore faire quelque chose. Il y a une intervention qui reste. Il y a une signature à la fin de l'histoire qui reste à faire. Et effectivement, la fin de l'histoire de Job est belle. Est vraiment belle. Le chapitre 42 est formidable. Dieu, il redonne. C'est pas toujours de même. Et quand il dit au centuple, hein? Oui, on a de la misère à voir le centuple des fois. Aide-moi à voir le centuple, Seigneur, que tu me promets. Hein? Et regardez bien ce verset-là maintenant. Une coche de plus. Ésaïe 38, verset 17. Et là, ici, c'est dans l'attaque que les Syriens font contre Ézéchias, le roi Ézéchias. Et on lit ces paroles. « Voici mes souffrances, donc mon amertume, même sont devenues mon salut. » Ah, OK. Ma situation de désespoir, d'irritation, d'être pris dans mon âme avec ces émotions fortes-là, ce que ça m'a causé, là-dedans, il y avait le salut, il y avait une délivrance. Il y a quelque chose qui va sortir de bon pour moi, pour amener une délivrance au travers cette situation de... Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Il y a quelque chose ici maintenant, un pas plus loin, dans ce livre d'Ésaïe, qui veut dire « le Seigneur sauve hein? ». Le Seigneur sauve, c'est le mot qui est utilisé ici pour « salut ». Et c'est Ésaïe qui va raconter cette même histoire-là également, et qui va utiliser ce verbe-là le plus souvent, « sauver, sauver ». Cette situation-là, vous savez, veut me rapprocher de Dieu. Lorsqu'on a l'amertume, dans l'âme, qu'on est au plus creux, c'est toujours une main tendue de Dieu. Il veut toujours faire quelque chose de beau d'une situation extrêmement difficile et il veut amener le salut dans nos vies. Mais le vrai salut, celui du pardon des péchés que Jésus-Christ seul peut faire, qui lui guérit l'âme, pas juste passagèrement, mais d'une manière permanente, par notre réconciliation avec Dieu. Et ici que ça passe par ce salut, cette délivrance de nos péchés, cette délivrance de Dieu, mais il faut se ramasser dans l'amertume pour en ressortir. Il faut se ramasser dans l'amertume pour que dans notre souffrance, on réalise qu'on n'est plus capable tout seul et qu'on a besoin de Dieu. Rappelez-vous de votre conversion. C'était la joie, ça allait bien dans votre vie ou ça allait pas bien? Vous étiez heureux et satisfait de la vie ou vous étiez écœuré de la vie au moment où vous avez courbé les genoux? Et donner votre vie à Christ, n'est-ce pas? Votre souffrance est devenue une situation de salut que Dieu voulait amener dans votre vie. Ça passe par là. Et elle va vivre ça, où ce que cette situation de détresse va laisser maintenant de la place pour Dieu, pour la restaurer. On va voir Dieu le faire et comment il s'y prend exactement. Un faux vide. Vide. Vous avez remarqué? Je suis parti rempli, je reviens vide. Vous savez, quand on est dans cette profondeur-là de détresse, on ne voit plus ce qu'on a. Elle ne réalise pas, elle-là, que présentement, sa belle-fille, c'est l'arrière-grand-maman du roi David. Elle ne réalise pas que cette fille-là va être utilisée par Dieu pour lui donner l'amour de Dieu, pour la restaurer. Elle ne réalise pas que sa bru païenne, ordinaire, une moabite, est l'ancêtre du Messie. C'est quelque chose. L'ancêtre du Messie est là avec elle, comme belle-fille. C'est un vide assez rempli, ça. Vous ne trouvez pas? Mais quand on est là, qu'est-ce qu'on voit? Du vide. Quand on est là dans cette amertume de l'âme, on voit juste qu'est-ce qu'on n'a pas, à l'apparence. Pour le moment, il y a de l'air à avoir rien, effectivement. Pour le moment, c'est décevant et elle ne voit pas que dans ses mains est déjà l'objet de bénédiction, Ruth, une Moabite. Mais il est là. Mais pour l'instant, c'est le vide. Est-ce que c'est possible? Dans ta situation ce matin, alors que tu regardes autour de toi et que tu regardes tes mains, tu dis, je suis tout seul. J'ai rien. Je suis largué. Et que tu ne vois pas clair. Parce que quand on est là, on ne voit pas clair. Et que Dieu ce matin veut t'encourager et dire, imagine qu'est-ce que je pourrais faire avec ton vide. Imagine ce que le Créateur, par son Fils Jésus-Christ, pourrait faire avec ton sentiment de vide, d'avoir rien dans les mains. Le mot va être réutilisé plus tard, dans le chapitre 3, pour dire, hey, je n'ai pas renvoyé ma belle-fille, à Boaz, je ne te retournerai pas les mains vides, je ne te retournerai pas à vide avec ton sac avec rien dedans. Elle a voit un sac vide, Naomi, pour sa vie. Mais il y a quelque chose dedans, elle ne voit juste pas encore. Ça n'a pas encore pris racine, ça n'a pas encore poussé cette semence qui est là. Mais elle a quelque chose. Et peut-être vous et moi ne voyons pas ce matin quelque chose qui est là. Et Dieu veut nous encourager ce matin à dire, veux-tu me faire confiance avec ton sentiment de vide, d'avoir rien? Je peux faire quelque chose bien au-delà de ce que tu penses. Bien au-delà de ce que tu penses. Et il nous donne l'espoir. Et finalement, on apprend au verset 22 que je ne lirai pas le timing de Dieu, parce que je vais m'y attarder la prochaine fois, parce que Dieu les amène à un moment précis dans le temps qui est tout orchestré. Il n'y a rien d'anodin. Il prend soin de eux par la date qui les amène là-bas. Et vous allez voir pourquoi. Mais le verset 22 nous introduit à cela. Je vais juste vous le mentionner en guise de transition vers le prochain message duquel on va commencer avec cet élément-là du timing de Dieu. Mais en terminant, j'aimerais vous soumettre quelques réflexions. Et restez avec moi en 5 minutes pour terminer. On va atterrir ce message avec juste quelques réflexions pour nos vies personnelles. La première chose que je retire de ce chapitre, c'est que Dieu est gracieux et qu'il est en contrôle de toutes choses. Ce premier chapitre me rappelle cela en partant, entre autres par le timing à la fin que j'ai souligné. Mais tout est orchestré par l'intervention de Dieu, le choix de la bru. Différentes choses arrivent et on voit que Dieu est gracieux envers elle. Il ne rentre pas dedans. Il permet l'épreuve et là, il va l'accompagner avec beaucoup de grâce. Mais en se démontrant extrêmement agile, dans un contrôle souverain de tellement de détails que c'est comme incroyable de voir comment Dieu est détaillé et au contrôle de des choses que nous, on se dit, ben là, Dieu, il se fout de ça. Non. Dieu, il est souverain. Tous les détails sont importants. Et tous ces détails-là sont une expression d'un tout, d'un Dieu qui s'occupe de moi. Il n'y a rien de trop petit pour Dieu. Et il démontre son contrôle sur tout, ici dans l'histoire. Et ça, on en a besoin lorsqu'on est dans le fond du baril, de se le rappeler. Dieu, il est gracieux. Il ne prend pas plaisir. Toi, tu vas payer. Nous autres, on est comme ça quand on se venger. Hein? Tu vas payer. Mais Dieu, il n'est jamais comme ça. Vous voyez? Nous, les humains en nous-mêmes, on pense comme ça. Mais Dieu ne prend aucun plaisir à nous voir souffrir. Il pleure avec nous. Il nous accompagne. Il nous aime. Il est gracieux. La même amertume qui habitait Naomi peut m'habiter aussi. Et vous savez, cette histoire est un miroir pour vous et moi. Un miroir pour Israël, la situation d'Israël qui est éloignée de Dieu et que Dieu invite à revenir, comme Naomi. Et que Dieu nous invite, vous aussi et moi, ce matin, à nous rappeler, est-ce que je vis un égarement et j'ai besoin de revenir? Est-ce que je vis un refroidissement dans ma foi, dans mon zèle? Et que Dieu, ce matin, m'invite encore, reviens comme Naomi, 12 fois, reviens à Bethléem, à la maison du pain de l'Éternel. Et que Dieu t'invite ce matin à revenir encore une fois. Vous savez, on pourrait parler légitimement de la vie chrétienne victorieuse, que ce n'est pas une vie qui est exemptée d'échecs, mais bien plutôt une vie marquée par des retours continuels à l'Éternel. Je le répète, j'ai constaté bien souvent que la vie chrétienne victorieuse n'était pas une vie exemptée d'échecs, mais marquée par une série de retours à Dieu et de nouveaux débuts. Vous êtes là ce matin? Peut-être que c'est votre situation qui serait de dire, ah, arrête de rester isolé, reviens encore à moi. Je vais te ramener aux joies d'antan. Je vais te redonner la joie que tu avais, la paix que tu avais et que tu as perdue depuis un certain temps. Peu importe ta gaffe, peu importe quel pays que tu as été, aussi loin que Moab, tu ne peux pas aller aussi loin et jamais revenir. Dieu te donne toujours la possibilité. Tu ne peux pas aller aussi creux de désobéissance comme Naomi a fait, de permettre que ses fils marient, peu importe la part qu'elle et Eliakim avaient. Tu n'es jamais trop loin avec Dieu pour pouvoir revenir et que ce n'est pas pardonnable pour Dieu. Pour éviter le désastre, je dois rester là où Dieu me veut. Arrêtons de sauver quand c'est difficile. Arrêtons de, là c'est dur au travail, changer de job. Ça veut-tu dire que Dieu veut que tu changes de travail? Puis que si tu es dans le bon travail, il n'y aura pas d'épreuve? Non, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Vous pensez que je suis ici à Trois-Rivières depuis 23 ans dans la même église parce que c'est facile à Trois-Rivières? C'est vrai que vous êtes agréable. C'est vrai. C'est vrai. Vous êtes resté à Trois-Rivières Beach? Parce que moi, je dis toujours que je vis à Trois-Rivières Beach. C'est le lieu promis pour moi et ma famille. Parce que Trois-Rivières, c'est un lieu merveilleux qui n'a jamais de problème. Vous êtes resté dans votre travail parce que vous n'avez jamais eu de problème? C'est facile? Ah non. Restez là où Dieu vous veut. Est-ce que vous savez où ce que Dieu vous veut? Est-ce que vous êtes convaincu que vous êtes là où Dieu vous veut? Alors, si vous êtes à la bonne endroit, faites confiance à Dieu dans l'épreuve. Allons pas se sauver aussitôt que c'est difficile. Vous allez devoir revenir à un moment donné. Et si vous l'avez fait, découragez-vous pas. Vous pouvez revenir. Peu importe rendu où, quel travail vous êtes rendu. On peut revenir n'importe quand. Peu importe quelle ville vous avez déménagé. Vous pouvez revenir, ceux qui nous écoutent en différé, vous pouvez revenir à Trois-Rivières Beach. N'importe quand. Amen. Je dois assumer mes choix. Ça, là, il est tough. Arrêtez de blâmer les autres. C'est la main de Dieu qui est dure sur moi. C'est Dieu qui me rend amer. Et toujours essayer de pointer quelqu'un. C'est dur, hein? Parce qu'évidemment, aussitôt qu'on peut pointer quelqu'un quand ça va pas bien, ça nous soulage, comment? Si c'est la faute de quelqu'un d'autre, on est tellement mieux. Moi, chez nous, c'est souvent la faute de ma femme. C'est la faute de mes enfants. Hein? C'est la faute de la ville. C'est la faute du voisin. C'est la faute du chien. Oui, le chien, je ne l'aime pas, le chien. C'est la faute du chien ou du chat. On aime ça blâmer, hein? Je vais vous dire quelque chose d'extrêmement profond. Vous ne l'avez jamais entendu votre vie. Rappelez-vous, c'est moi qui l'ai dit le premier dans votre vie, OK? Quand tu pointes quelqu'un, vous n'avez jamais entendu ça, hein? Il y a toujours trois doigts qui se pointent vers toi avant de pointer l'autre, OK? Puis le troisième, le pouce, il pointe où? En haut. Pensez-y. On aime pointer. C'est bien simple, hein? Je sais, vous l'avez tout entendu à un moment donné, c'est pour ça que j'étais ironique. Il y a trois dieux qui me disent « Arrête de regarder l'autre, puis tourne-toi vers Dieu. Assume tes choix. Assume que tu ne comprends pas. Puis quand tu ne comprends pas, tu n'as pas besoin de blâmer tout le temps Dieu pour tous tes malheurs. Peut-on arrêter de toujours, puis d'accepter et d'accueillir l'amertume et d'aller vers Dieu? Puis lui demander son aide. Tu peux-tu m'aider avec mon amertume? Je n'arrive pas à l'accepter, la situation. Peux-tu m'aider? Je veux préserver, dans ces moments-là difficiles, dans mon engagement de rester attaché à Dieu, comme Ruth nous le montre. Rester attaché. C'est une décision, et c'est quand ça va mal qu'on voit ce qu'on a dans le ventre pour notre décision. Alors, quelle sorte d'attitude que j'ai ce matin? Quelle est mon attitude ce matin? Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher pour terminer. Quelle est mon attitude ce matin? On va prier, puis posez-vous cette question-là. Où est-ce qu'elle en est, mon attitude, dans ma difficulté? Seigneur, on n'est que des humains. Et on peut tellement s'identifier avec Ruth, avec Naomi, et les sentiments qu'elle vit. Hommes et femmes, on lutte avec cette amertume. Et ce matin, on y réfléchit, on y pense. On le sait qu'on ne devrait pas être comme ça. On le sait qu'on ne devrait pas blâmer, puis on le fait quand même. On le sait qu'on ne devrait pas être frustré contre toi, mais oh, à l'intérieur, on garde une petite crotte sur le cœur contre toi en se disant que c'est ta faute. Seigneur, pardonne-nous de se replier si facilement sur nous-mêmes, de se couper de toi, alors que toi, Seigneur, tu permets ces souffrances pour qu'on s'approche de toi. Que toi, tu as toujours le désir de tendre la main, qu'on puisse la prendre. Et ce matin, peut-être, on a besoin de revenir à toi et de la prendre, ta main. Ta main gracieusement tendue. Que rien n'échappe de ce qui s'est passé. Rien n'échappe. Parce que c'est vrai, ce verset-là de Paul, qu'on n'aime pas, mais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, Seigneur, aide-moi à le croire. Aide-moi à le croire, puis à le vivre, Seigneur, quand je passe des moments difficiles, que tout est bon. Merci pour mes problèmes, Seigneur. Or que j'ai besoin de foi, Seigneur, pour dire une affaire de même. Et j'en manque ce matin. Peux-tu m'aider, Seigneur, de te dire merci pour mes problèmes. Merci pour mes épreuves, parce que ça m'amène à être faible, et quand je suis faible, c'est là que je peux devenir fort en m'appuyant sur toi. J'ai besoin de toi ce matin, Seigneur, peu importe ma situation, je veux m'approcher, me revenir à toi. Et Seigneur, peut-être ce matin, quelqu'un, comme Ruth l'était au début du livre, ne connaissant autre chose que Kamosh, le Dieu Moabite, Seigneur, peut-être quelqu'un ce matin apprend à connaître ce matin le Seigneur Jésus, le Créateur, le seul vrai Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, qu'on vient de lire, qui a visité ce peuple. Peut-être y a-t-il quelqu'un, Seigneur, dans cette salle qui se doit ce matin de prendre une décision comme Ruth et de dire, je vais faire de l'Éternel mon Dieu et je vais m'y engager jusqu'à la mort. Pardonne-moi par le nom de ton Fils Jésus de mes péchés, Seigneur, ce matin. Je veux croire dans ton Fils, te donner ma vie, fais-en ce que tu veux. Et peut-être est-ce là votre décision ce matin. Seigneur, nous te prions tous ces besoins, dans le nom de Jésus. Amen.